Bonjour aux uns aux autres, à tous et toutes. Heureux de me retrouver parmi vous. On a été absent cette dernière quinzaine et donc dimanche dernier notamment. Non, pas dimanche dernier, dimanche d'avant. Je ne sais plus trop. Si, dimanche dernier. Dimanche d'avant. Ça passe vite, il se passe beaucoup de choses. J'avais initialement, comme nous avions la pastorale à Mulhouse de la Fédération et puis une pastorale élargie qui était particulièrement riche, j'avais prévu initialement de quelque part vous en rendre compte. Il y avait vraiment des thèmes intéressants. On sent très clairement qu'il y a une direction qui est donnée parce que la vie des églises est difficile, il se passe quelque chose, Dieu manifestement prépare son église, et on voit à travers les intervenants, il y avait là Mamadou Karambiri et puis Jean-Marie Ribé qui sont intervenus sur vraiment des fondements, la conduite dans les temps difficiles. Hein. J'y reviendrai, mais j'étais amené à changer un peu mon approche parce que nous avons eu la semaine dernière le témoignage, de nombreux témoignages à travers le groupe, le collectif Rescapé. Et nous avons vu le témoignage de mauvais choix dans des vies qui, au lieu de conduire à la liberté, ce que cherchaient bien des gens, ont conduit à des esclavages jusqu'à l'intervention du Dieu libérateur. Je pense que beaucoup d'entre nous étaient là. Je pense à cette jeune fille, ça me touchait beaucoup, qui s'est comparée, qui trouvait qu'elle était moins libre que ses copines, notamment par rapport aux mœurs, et qui s'est trouvée, et qui du coup s'est lancée, et pas d'autre mot, dans des aventures qui l'ont conduit à des situations bien difficiles. Il s'est donné à un homme l'engrenage de plusieurs, et ce qui l'a conduit dans des esclavages terribles. On a vu comme ça bien des situations. Et puis, la semaine dernière, nous étions avec Marie-Annick, nous avions pris 8 jours. Initialement, j'avais regardé un petit peu le programme. C'était un programme pour des couples, par une œuvre qui s'appelle Lisa, une œuvre suisse. Lisa, ça doit vouloir dire en light and salt, hein, sel et lumière, être couple, sel et lumière. Alors j'ai dit, tiens, c'est bien, ça fait plusieurs fois qu'on va à cette maison chrétienne, et puis je dis, ça va nous reposer un peu, etc. En fait, on a beaucoup travaillé, c'était un programme bien chargé, de 9h moins le quart le matin à 12h30, ensuite de 15h à 18h30, et enfin de 19h45 à 21h30, eh bien, c'était dense. 19 couples étaient là, de 35 à 65 ans, donc on n'était pas dans les plus jeunes. Mais il y en avait d'autres, un peu de notre âge. Hein. Mais c'était vraiment intergénérationnel. Tous, je l'ai pu le voir au moment des témoignages et des présentations, tous très, très engagés dans leurs églises respectives. Et là, nous avons été touchés par la profondeur des témoignages, aussi des témoignages, dès la présentation. Et aussi des situations qui ont pu être mises en lumière. J'en cite deux comme ça. Évidemment, je ne dévoile pas les personnes. Un couple assez jeune où le fils aîné, où le mari était le fils aîné dans une famille où le couple de ses parents ne fonctionnait pas très bien. Il s'est trouvé à occuper finalement une place qui n'était pas la sienne. Et ainsi, petit à petit, il s'est retrouvé à répondre à toutes les sollicitations de la maman. Le papa n'était sans doute pas tout à fait à sa place. Et du coup, c'est le fils aîné qui s'est trouvé dans cette place. Et c'est un vrai piège pour le couple. Ce témoignage a été partagé par ce couple. Et du coup, ça en a touché un autre. Chez un autre couple... L'homme, qui avait 65 ans également, a été vraiment touché parce que ça lui a révélé une situation qui était dans sa vie depuis longtemps, où il y avait à la fois des emprises familiales couplées avec tout un joug religieux dans une église. C'était des chrétiens depuis 3 générations, etc. Et vraiment, moi j'étais bouleversé par ce que cet homme a vécu. Et personnellement, j'ai réalisé au cours de cette semaine, le Seigneur avait déjà travaillé, combien des fonctionnements anciens, installés des fois depuis l'enfance, ont marqué ma vie, bien au-delà de ma rencontre avec le Seigneur. Et Jean-François a choisi un texte ce matin là, pour introduire ce culte. C'est un texte qui me touche beaucoup. J'ai l'impression d'y voir ma vie. Je ne me compare pas à Paul. Mais je me dis vraiment, certains connaissent mon témoignage, comment Dieu fait pour prendre un homme qui est blasphémateur, impur et tout ce que vous voulez, et l'amène par ses voies à le servir. Moi, je suis vraiment bouleversé par ces choses. Alors ce matin, pourquoi cette longue introduction? Parce que le thème vraiment, et ça va, c'est dit il y a trois nuits à la maison, affranchi pour la liberté. Cette parole de Galates 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et souvent, quand j'évoque ce verset, je n'oublie pas de souligner le verset 13 de Galates 5 qui dit « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, mais ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre selon la chair. » Mais ce matin, je ne veux pas le faire. Je voudrais qu'on reste là-dessus. Affranchi pour la liberté. Quand vous regardez le texte, c'est vraiment insistant. C'est le même terme qui est employé. Hein. Affranchi, c'est en fait libéré pour être libre. Voilà littéralement ce qui est dit. Et ce matin, je voudrais parcourir, nous allons lire des lectures assez longues, mais vraiment, je voudrais travailler ça avec vous ce matin. Parce que, au-delà de la conversion initiale, tant de souffrances, tant de choses restent dans les vies et continuent à marquer les vies. Vous savez, on a des comportements qui ont été passés, c'est comme quand vous avez repassé une chemise longtemps, le pli est marqué. Et après, il faut au moins le faire vapeur et plusieurs lavages pour qu'une autre forme vienne apparaître. Si ce matin, je vous invite simplement, j'allais dire tranquillement, à dire Seigneur, si ça vous parle, s'il y a des choses comme ça dans notre vie, qu'on puisse cheminer ensemble tranquillement ce matin. Alors, nous allons lire trois textes. D'abord, deux récits de miracles dans l'évangile de Jean, Jean 5 et Jean 8. Alors, on va commencer par Jean 5 et puis on prendra Galates 4 et 5. Alors, Jean 5, versets 1 à 9, puis le verset 14. Jean 5, verset 1. « Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. » Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Et au verset 14, « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Prenons dans Jean 8 ensuite, nous allons prendre les versets 1 à 15 et puis 26 à 36. Jean 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Je souligne tout de suite que dans la loi de Moïse, il est effectivement prévu la mort pour lorsqu'un homme et une femme, un homme et une femme sont surpris en flagrant délit d'adultère. S'il y a flagrant délit, c'est qu'il y a les deux. Je souligne comme ça parce que c'est pas rappelé dans le texte de Jean, mais évidemment, il y a un petit problème dans la façon dont les religieux amènent cette femme. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant levé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus, va et ne pèche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent: tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit: quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi, je ne juge personne. Je passe un peu plus loin au verset 26. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent: nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Littéralement, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Et enfin, je voudrais qu'on prenne dans Galates, donc au chapitre 5. Galates au chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alors, quelques remarques sur ces textes et leurs liens. Dans l'évangile de Jean, sept miracles sont rapportés comme des signes donnés pour manifester par Jésus, pour manifester sa gloire et afin que nous croyions. Ça, c'est dit dans Jean 20. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dans ces deux textes, on voit qu'à chaque fois à chaque fois, le ministère de Jésus amène une opposition grandissante de la part des responsables religieux qui, au fil du temps, sont passés de serviteurs de Dieu à propriétaires et dominants sur le peuple que Dieu leur avait confié. Les choses se sont faites petit à petit. Dieu a choisi effectivement parmi son peuple les Lévites, la tribu de Lévi pour servir. C'est de la tribu de Lévi qui était selon le sacerdoce lévitique, issus les sacrificateurs et tous ceux qui étaient au service de Dieu et qui étaient chargés aussi de juger des choses sur la base de la loi donnée par Moïse. Mais au fil du temps, ils ont rajouté d'autres choses, et cette loi, dont on sait qu'elle nous est donnée comme un précepteur, comme un modèle pour nous conduire à Christ, eh bien, ceux qui avaient la charge de la faire respecter d'une certaine façon, mais aussi de conduire le peuple, se sont appropriés, sont devenus dominateurs et dureux. Prophète Ézéchiel, Dieu, dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 34, fait des reproches très durs hein, aux pasteurs, aux bergers qui conduisent le troupeau. Et c'est là quelque chose de difficile. Et donc on voit que, tandis que Jésus vient, qu'il exerce son ministère terrestre, qu'il accomplit ses miracles, qui tournent autour de la libération, parce que c'est son ministère qui est rappelé dès Luc 4, hein, avec Ésaïe 61, il est venu pour délivrer les captifs, guérir les cœurs brisés, etc. C'est le ministère de Jésus, de manifester le royaume de Dieu. Eh bien, dès qu'il manifeste ce ministère, il se trouve qu'il le fait aussi parfois le jour du sabbat, parce qu'il est libre par rapport à tout cela. Eh bien, les religieux, les responsables, il faut bien le reconnaître, résistent et l'opposition va grandissante. Quand on lit vraiment l'évangile de Jean, on voit ça, ça va de mal en pire, on pourrait dire, et ça aboutira à la crucifixion de Jésus. Dans la lettre de Paul aux Galates, nous retrouvons la même dérive. Nous avons limité la lecture, évidemment, mais le thème de la lettre aux Galates, ça s'adresse à une communauté qui a vraiment reçu le message de l'Évangile avec force et qui a été vraiment bénie, qui a connu cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et puis, petit à petit, venu se glisser des gens convertis mais issus. Et là, on voit tout le problème, la question de l'arrière-plan dans nos vies. Nous avons tous des arrière-plans, qu'ils soient sociaux, culturels, religieux. Là, en l'occurrence, à la lettre aux Galates, c'est bien un arrière-plan religieux qui va venir s'immiscer à travers des Juifs qui disent « Mais certes, nous avons le salut en Jésus-Christ, sans aucune œuvre, néanmoins, il serait bien de se faire circoncire, etc. etc. » Paul va s'opposer de manière forte, mais construite, à cette position. Il faut savoir que c'est quelque chose qui arrive, et Paul va vraiment... c'est dans ce contexte-là qu'il va dire aux Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez ferme et ne vous laissez pas mettre sous le joug, ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude, en l'occurrence de la loi et des rites issus de cette loi qui était pour un temps, mais qui maintenant a vieilli. De la même manière, ces choses peuvent se produire aujourd'hui. On peut connaître l'Évangile, on peut connaître une libération et les témoignages nous montrent l'œuvre puissante de Dieu qui fait une libération initiale. Mais si l'on y prend garde, rapidement, les choses, tout un tas de liens, de choses, à la fois issues de notre passé, à la fois issues du monde religieux, à la fois issu aussi de la complaisance avec le monde et puis de l'ennemi qui ne se prive pas de rappeler tout ça, peut nous resserrer et nous faire perdre cette liberté. C'est le premier aspect que je voudrais aborder avec vous. Lorsque le Seigneur a touché nos vies, il a fait cette chose merveilleuse, ça a été rappelé dans une prière. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Cette révélation première peut prendre des formes et des forces différentes, mais dans tous les cas, une attestation vient dans le cœur que plus rien ne sera comme avant. Je pense que vous êtes d'accord, tous ceux qui ont connu cette expérience de la nouvelle naissance avec toutes ces étapes, Dieu a peut-être touché, il nous a peut-être touché d'abord par sa puissance, en voyant des miracles, en entendant des témoignages. Pour d'autres, ils auront été saisis d'un seul coup, Dieu leur a montré leur misère de vie et les aura délivrés. C'est ce que j'appellerais un peu l'expérience initiale. Pour certains, elle est brutale d'un coup, pour d'autres, elle s'étale sur quelques mois, quelques années, qu'importe. Dieu débarque dans une vie. Et c'est toujours, et nous avons tous une attestation, c'est l'œuvre de l'Esprit qui vient mettre une attestation dans nos cœurs. J'appartiens à Jésus-Christ. J'ai saisi cette possibilité de devenir enfant de Dieu. Et ça, ça amène une joie et une paix dont on se souvient, je crois, toute sa vie. Et souvent, les témoignages rappellent cette étape initiale et c'est encourageant de les entendre pour cela. Pourtant, c'est là le début du chemin. La voie est ouverte, celui qui est lumière a commencé d'éclairer nos ténèbres et du coup, nous voyons. Et là va se passer quelque chose que je voudrais souligner. Nous devenons à cet instant responsables. Nous devenons à cet instant responsables. La liberté nous est offerte, car celui qui est la vérité est entré dans notre vie. Mais Jésus déclare encore ceci à ceux qui ont cru, et je vais relire dans Jean 8, comme une forme d'avertissement. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Plusieurs crurent en lui, y compris de ces hommes qui étaient gardiens de la loi, etc. Certains ont été touchés et ils ont cru. Et Jésus leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils ont cru. Donc ils ont déjà vécu quelque chose, mais Jésus leur dit, ce n'est que le début du chemin. Demeurez maintenant. Demeurez, je viens chez vous, demeurez en moi. Demeurez dans ma parole, demeurez dans ma foi, je ne vais pas développer ça ce matin, demeurez dans ma grâce. Et alors, vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire que vous avez commencé aujourd'hui à connaître un peu la vérité. Il y a eu une première illumination, mais vous avez besoin d'avancer. Et la vérité vous rendra libre. La démarche de la sanctification, ça nous est rappelé dans Éphésiens 4. Marcher dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Regardez la réaction de ces hommes qui montrent bien que quelque chose d'initial s'est produit, mais qu'il y a des grosses structures qui restent en place. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Vous avez vu cette réaction tout de suite. On n'a jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, il faut que le fils, lui, vous libère, vous serez réellement libre. Celui qui se livre au péché est esclave du péché. Le péché est ici une puissance. Or, tous, nous nous sommes un jour livrés au péché. Le péché est une puissance. Et quand on s'y livre, et ça je crois que les témoignages que nous avons entendus la semaine dernière et qu'on a entendus aussi parmi nous, quand on met le doigt dedans, on n'a ensuite plus la possibilité de s'en sortir soi-même. Je crois que c'est une notion importante, ça. C'est une notion importante. Quand on a mis les doigts dans certaines choses, le péché étant une puissance, notre volonté n'est pas suffisante pour s'en sortir. Nous le rappelons souvent, seule l'œuvre de la croix, révélée par le Saint-Esprit, est la seule puissance qui peut engloutir, qui peut renverser et qui peut nous libérer. Je crois que c'est une règle, c'est une loi spirituelle que nous ne pouvons pas ignorer. Sinon, on est perdu. Premier point, donc, je vous soulignais, à partir du moment où nous avons été éclairés, j'allais dire une première fois, ce qui change, c'est que nous devenons responsables devant Dieu, puisqu'il est venu maintenant, il habite en nous. Je crois que j'emploie souvent cette image du débarquement qui a libéré qui a été le début, le débarquement en Normandie, qui a été le début de la libération de l'Europe, ça a bien été le début. Il y a eu d'énormes troupes qui ont débarqué en Normandie, mais je rappelle toujours que Paris n'a été libéré que quelques mois après. Quant à Berlin, c'est 12 ou 14 mois après. C'est une image, évidemment, mais vous savez que toute la parole nous enseigne cela. Dieu vient débarquer, il y a un changement, il habite en nous, mais ensuite il veut prendre toute la place. Et je voudrais que ce matin, on ne s'arrête pas comme des anciens combattants à dire « Ah, j'ai connu quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur, un jour il est venu dans ma vie, il a changé, etc. » Il veut libérer tout le territoire pour que nous soyons réellement libres. Et il va, et il y a des choses qu'il ne peut pas faire au début. Mais par contre, il va nous éclairer pour que nous prenions conscience des choses qui sont installées depuis si longtemps. Mais il va le faire. La libération, l'entrée dans les promesses, car Canaan est le pays de la promesse, a pris beaucoup de temps. Je n'ai pas le temps de développer tout le livre des juges, mais tout ce que Josué a dit, tout ce que Dieu a dit, cela prendra du temps, ça a commencé d'une manière spectaculaire et ensuite ça a pris du temps. Il y a eu des chutes, il y a eu des reculs. Et en plus, Dieu ajoute, j'y viendrai tout à l'heure, j'illustrerai ça. Lorsqu'on chasse un ennemi, il faut remplir d'autres choses. La parole le dit clairement. Ça prendra du temps, a dit l'Éternel, parce que je ne veux pas que la terre soit déserte, parce que d'autres ennemis viendraient. Pas à pas. C'est Dieu qui donne le rythme. Notre part, par contre, et je veux souligner ce matin, nous avons une responsabilité à partir du moment où nous appartenons au Seigneur. C'est lui qui a la puissance pour délivrer, mais ensuite, quand il nous montre des choses dans notre vie, il va nous montrer un processus, il va nous offrir de quoi surmonter, dépasser. C'est tout le processus de renouvellement. Revenons un petit peu à nos deux, aux paralytiques d'abord. Jésus pose une question aux paralytiques. Veux-tu être guéri ? Cette question de Jésus peut paraître surprenante vis-à-vis de cet homme paralysé depuis 38 ans. Et pourtant, sa réponse à cette question si simple, mais en même temps incisive de Jésus, n'est pas si claire. Il n'y a personne pour me descendre dans la piscine lorsque l'ange descend pour agiter l'eau, et quand j'y vais, c'est trop tard, d'autres sont passés avant, etc. Oui, on peut s'installer dans une souffrance, une difficulté, continuer de proclamer la puissance de Dieu, mais soulignant que quand même, d'autres sont mieux traités que nous. Notez que Jésus ne fait pas de reproche, mais l'invite à se lever. Job 6, 14 nous dit « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte de l'Éternel. » Jésus est dans la compassion, non dans l'apitoiement. Il nous veut debout et libre d'une libération que lui seul accorde. L'apitoiement sur soi, c'est quelque chose qui peut... Il y a de telles souffrances des fois dans les vies. Jésus a compassion, s'est repris si souvent, mais il n'est pas dans l'apitoiement. Jésus nous voit aussi marchant en gardant notre lit pas loin. Le paralytique s'est levé, il gardait son lit. Parfois, oui Seigneur, je me lève, allez, j'arrête. Mais je garde mon lit pas loin, je garde ma solution humaine, ma consolation que je me suis fabriquée au fil des années. Pour cet homme qui marche maintenant, le combat consistera dans les pensées qui reviendront sur ces 38 ans de paralysie de sa vie et les pourquoi qui vont avec. Peut-être un sentiment d'injustice. Il lui faudra décider de lâcher son lit de l'apitoiement sur soi pour garder la parole de son libérateur. Cela peut nous concerner. C'est notre responsabilité. Devant Dieu, Seigneur, je tourne en rond avec mes affaires. à la femme, Jésus va poser une question aussi. Il n'a pas d'abord parlé à ceux qui finalement l'oppressaient. Pour la femme adultère, la question c'est où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? Pour la femme adultère, la provision reçue et qui la relève, c'est littéralement la miséricorde de Dieu qui triomphe du jugement. C'est une scène bien sûr prophétique au moment où elle se passe, puisque Jésus n'a pas encore été élevé ni à la croix du tout accompli, ni dans la gloire. Et qu'à ce moment, nous sommes dans ces temps intermédiaires où le sacerdoce lévitique, quelque part, est toujours d'actualité, bien que nous dise la lettre aux Hébreux, il a vieilli et il n'est pas loin de passer. Mais on est dans ces temps intermédiaires. Donc, et c'est vrai que dans ces temps intermédiaires, et on voit là toute l'impuissance du sacerdoce lévitique, bien des péchés ne pouvaient pas être pardonnés. C'est le cas de l'adultère. Seule la mort était prévue. Mais là, dans cet instant, le Fils est là maintenant. Vous savez, la lettre aux Hébreux nous dit, après avoir parlé de plusieurs manières, Dieu, dans les derniers temps, a parlé par le Fils. Et là, le Fils est là. Le royaume de Dieu est manifesté par le Fils, destiné à régner sur toute la maison. Et ces différents miracles sont des coups de boutoir qui ébranlent les ordonnances anciennes, vieillies, prêtes à disparaître, pour être remplacées par le sacerdoce selon Melchisédek, selon lequel le sacrifice unique est suffisant pour le pardon et la purification de tous les péchés. Ce passage de la femme adultère est un passage clé. Nous sommes dans ce temps de bascule. Le Fils est là. Le Fils bien-aimé, celui en qui le Père a mis toute son affection, est là et il exerce et il manifeste la miséricorde qui triomphe du jugement. Cet homme paralysé, cette femme qui a chuté, à l'un comme à l'autre, Jésus dit la même chose ensuite. Va, va, relève-toi et marche maintenant. Tu es libre. Tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Va, je t'ai libéré. Mais maintenant, tu as une responsabilité. Maintenant, tu m'as rencontré. Maintenant, je t'ai libéré. Ce que tu ne pouvais pas faire, parce que tu t'étais livré au péché et la puissance du péché te tient. Je te libère maintenant. Alors va, marche maintenant. Apprends à marcher. Apprends à marcher. Apprends à faire du vélo. Je vais tenir ta selle. Mais marche, mais, et, plus exactement, ne pêche plus. Parole de Jésus, à la fois la femme adultère libérée du jugement de la loi, par la présence de Jésus, et au paralytique, marchant en portant son lit, va et ne pêche plus. Pas de jugement, pas de condamnation dans ses paroles, si ce n'est la condamnation du péché. Jésus est venu pour cela, c'est son ministère. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ce péché dont le salaire est la mort. Jésus nous dit la réalité comme il le dit à cette femme et à ce paralysé. C'est la vérité qui rend libre et la vérité c'est celle-ci. Quiconque se livre au péché est esclave du péché, car le péché est une puissance. Je renvoie aussi, la semaine dernière, nous avons entendu les témoignages de ce jeune qui touchait à l'occultisme. Un jeu, un défi, mais rapidement, des tourments sans fin. Les relations sexuelles hors du cadre béni prévu par Dieu, des liens d'âme, des comportements irrationnels. Avez-vous aussi été touché? On connaît beaucoup de situations comme ça. Combien d'hommes et de femmes se sont trouvés embarqués dans des situations plus que douloureuses. Vois comment a été rappelée la semaine dernière cette femme qui s'était donnée à plusieurs hommes et qui était battue et qui ne pouvait malgré tout se détacher. Voilà la puissance des liens d'âme qui sont très clairement liés à ces pratiques sexuelle hors du cadre béni du mariage. Que d'autres addictions encore. Le péché est une puissance. Dieu a libéré, Dieu nous a libérés, Dieu veut en libérer encore ce matin. Et à l'instant où nous connaissons ces libérations initiales, nous devenons responsables devant Dieu parce qu'il vit en nous. Et nous avons, nous, des décisions ensuite à prendre. Nous avons des décisions à prendre. Et à prendre garde, j'y viens, ne pas se mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voici les paroles que Jésus prononce, et comme un écho à l'exhortation de Paul aux Galates retentit, c'est pour la liberté que Christ vous a libéré. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme, car d'autres choses peuvent venir. Qu'est-ce qui peut revenir ? La crainte et les peurs liées parfois à des jougs religieux et dont on ne peut plus se dépêtrer. Combien de chrétiens dans nos églises protestantes, évangéliques, suivent des ministères et petit à petit finissent par suivre un homme sans vérifier à partir de la parole et auprès de Dieu ce qui est dit. Ça peut être une mauvaise compréhension du comportement que Dieu attend de nous. L'équilibre entre la nécessaire communion fraternelle et le soutien spirituel au sein du corps, et l'engagement et le service auprès des perdus pour les gagner pour Christ. Nous avons là un équilibre à trouver, qui n'est pas une tiédeur. Dieu nous invite à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais il nous invite aussi à nous fortifier en apprenant au sein du corps de Christ. Parce qu'il y a des choses que nous n'apprendrons pas avec les païens, frères et sœurs. Il y a des choses que nous apprendrons avec ceux qui, comme nous, avons été rachetés et qui sont en apprentissage de marche. Alors c'est sûr que ça nécessite d'apprendre cette humilité, de voir les chutes. Est-ce qu'on accepte que mon frère me voit chuter, me voit encore faible sur certains points. Frères et sœurs, l'Église, corps de Christ, est le lieu. Alors on peut penser ce qu'on veut, mais c'est le lieu que Dieu a prévu pour fortifier chacun de ses membres. Pour qu'ainsi, ils soient, oui, ils soient envoyés, et que là où ils sont, ils soient témoins. Mais il y a cet équilibre. Qu'est-ce qui peut encore nous remettre sous le joug de la servitude tout notre passé? Les racines profondes. Ces racines qui n'apparaissent pas, mais qui sont bien souvent les motivations qui nous ont conduits dans certaines voies. La femme adultère, la femme samaritaine, c'est bel et bien un besoin d'affection, d'amour. Jésus va trouver la parole si tu connaissais le don de Dieu pour la femme samaritaine. Parce que des choses sont tordues, des choses ont été peut-être blessées. Souvent, il faut le dire, dès la petite enfance, vous savez que je ne suis pas un fan de tout passer par la psychologie, mais nous avons une âme, notre âme, elle est sensible, elle est touchée, elle est parfois abîmée, toute petite. Et cela, ça déclenche des choses. Je ne vais pas vous dire, mais moi je peux vous dire ces derniers temps, à travers notamment ce séminaire, mais aussi d'autres choses que Dieu, je voyais bien que Dieu préparait. J'avais des tourments tout petit. J'avais commencé l'école très tôt. J'étais vraiment ce qu'on appelle un bon élève, voire un très bon élève. Et alors, ça faisait plaisir, évidemment, à mes grands frères, à mes grandes sœurs. J'étais le dernier, etc. Et le Seigneur m'a montré, vous allez dire, j'ai 64 ans, mais le Seigneur m'a montré les mécanismes qui se sont mis en route. À l'école, on levait le doigt, vous savez, la maîtresse s'est posée des questions. Puis on lève le doigt. Et je levais toujours le doigt pour donner la bonne réponse. Souvent, elle était bonne, etc. Et puis, mais vous savez, ça met des choses en route. Des fonctionnements terribles. Terribles. Et je demande pardon. Je vois que des fonctionnements ont perduré dans ma vie. Je demande pardon à ceux que j'ai pu blesser là-dessus. Mais, mes frères et sœurs, ce n'est pas très agréable quand on découvre tout ça. Parce que du coup, on voit toutes les conséquences que ça a eues, peut-être sur des enfants, etc. Ça ne remet pas en cause mon salut. Mais ça reste néanmoins douloureux. Le Seigneur nous dit, hop, tu vois ça? Là, j'ai une décision, le Seigneur, ce qu'il fait, c'est qu'il nous montre. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Mais nous avons quelque chose à faire. Nous n'avons pas... Il y a des libérations que Dieu fait, mais ensuite, il nous dit, vas-y maintenant, toi. Tu as vu ça? Ça, tu l'abandonnes. C'est ta décision. Notre part, c'est quoi? Nous dépouiller de cela. Il ne dit pas « je vais vous dépouiller ». Il dit « dépouillez-vous ». Dépouiller, nous revêtir. Dieu nous a libérés pour que nous puissions librement exercer nos responsabilités. C'est à nous de décider d'abandonner nos attitudes qui empoisonnent nos vies. C'est à nous d'aller chercher dans le vestiaire de Dieu. Je vais vous dire, cette semaine, on parlait du vestiaire de Dieu. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ne peuvent pas aller chercher la parole, c'est plus simple. Ben oui, mais c'est la parole. Revêtez-vous les vêtements, on va les chercher où? Dans le vestiaire. Dieu a un beau vestiaire pour nous. On va le lire, tiens, dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, on va lire à partir du verset 20. Mais vous, Éphésiens 4, verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi, vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi le dépouillement, renoncer au mensonge, et puis que toute amertume, toute animosité, au verset 31, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Et donc, revêtons-nous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Il a plein de choses dans son vestiaire. Il a pour celui qui volait, qui ne vole plus, qui marche tranquillement. Il a même l'obéissance dans son vestiaire, il a tout ça. Vous avez noté dans ce passage qu'il s'agit bien d'un processus. Il y a le salut instantané, il y a le renouvellement de nos pensées. C'est de cela dont Dieu nous parle. Ce renouvellement, nous ne pouvons pas le bricoler par des techniques humaines. C'est l'Esprit qui vient apporter la pensée de Dieu, la déposer, la confronter à nos vieux comportements. Et là, nous avons notre décision. Seigneur, aujourd'hui, tu me montres ça. Ton travail de purification, de renouvellement, tu me montres qu'il y a ça. Je le mets de côté. Viens me revêtir. J'aurais vraiment souligné ça ce matin. Et qu'on se mette en route. Alors, on n'est peut-être pas dans le spectaculaire de témoignages initiaux. Mais Dieu est là. Peut-être c'est des petits pas, il y a des décisions. Mais si on fait le pas, il nous accompagne. Alors, on a des décisions peut-être les uns et les autres à prendre ce matin. Elles se prennent devant Dieu. J'allais dire, prenez pas la méga décision, mais Mais une décision dans une circonstance. Et demandons l'aide de Dieu. Mais décidons. Je crois que c'est important de le confesser, qu'on le fasse là, qu'on le fasse plus tard, de le dire devant Dieu. Tu m'as montré ça. Je décide, je renonce à ça. Ça, je l'abandonne. Et maintenant, je viens chercher dans ton vestiaire, qui est bien garni, ce dont j'ai besoin et que je ne peux pas fabriquer moi-même. Je termine simplement en relisant Galates au chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes dans cette liberté et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Tu es le Dieu libérateur. Et Seigneur, merci pour les offres que tu nous fais. Seigneur, merci pour ton vestiaire, Seigneur, qui est rempli des caractères de ta personne, Seigneur. Et Seigneur, tu nous l'offres. Seigneur, il nous appartient. La liberté va avec la responsabilité, Seigneur. Seigneur, même à cet homme qui était paralysé depuis 38 ans, tu as demandé s'il voulait être guéri. Seigneur, je te prie ce matin que toute crainte du changement qu'amène cette libération. C'est vrai que, Seigneur, quand on est debout, ce n'est pas le même point de vue que quand on est couché. Seigneur, je te prie ce matin de nous libérer de toutes les sécurités qu'on s'est mises pour échapper à nos malheurs, à nos chutes, à nos paralysies, Seigneur. Tout ce qu'on a organisé, Seigneur. Et que vraiment, nous entendions cette parole qui nous dit « Lève-toi, va, va maintenant et ne pêche plus et tourne-toi vers moi. Je te loue, je te bénis pour ce que tu fais dans les cœurs ce matin, Père. Amen. »